Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13 à 14 heures ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Eh bien, vous êtes bien sur la clé des ondes, ça ne change pas, et vous êtes maintenant dans notre émission Histoire de voir, histoire au pluriel. Aujourd'hui, eh bien, on va faire un petit voyage, on va partir au Pays Basque. En fait, on était invité au salon Hatchik de Saint-Pé-sur-Nivelle au Pays Basque, le week-end de Pâques. C'était un salon des vins et des livres de résistance. Alors, on y était pour présenter nos livres sur les révoltes populaires en Aquitaine du Moyen-Âge à nos jours. Bien sûr, sur les gilets jaunes de la valse du rond-point au Quai de la Colère. Et puis, nous y avons rencontré un personnage qui incarne cet esprit de révolte populaire et d'aspiration à la démocratie pour ceux d'en bas contre toute forme d'oppression. Son combat s'inscrit dans l'histoire du peuple basque et comme chacun le sait, tout est politique. Il nous parlera de son livre, La cuisine sous clé, avec comme sous-titre « Recettes de cuisine d'un prisonnier politique basque et autres considérations ». Et puis, nous parlerons aussi d'une femme remarquable, Eva Forest, espagnole d'origine catalane, militante antifranquiste, féministe, médecin psychiatre, écrivaine, éditrice et qui a pris fait et cause pour le combat de l'indépendance basque, est un peu à l'origine de ce livre. La cuisine sous clé, recette de cuisine d'un prisonnier politique basque et autres considérations. Pendant 50 ans, Josu Urrutikoetxea, dit Josu Ternera, a appartenu à l'organisation basque Euskadi Ta Askata Suna, dit ETA, E-T-A. C'est lui qui, en 2018, a annoncé la dissolution et la fin de la lutte armée. Aujourd'hui, il est âgé de 74 ans et nous l'avons interviewé pour la sortie de son livre « La cuisine sous clé », avec un sous-titre important « Recettes de cuisine d'un prisonnier politique basque et autres considérations », un ouvrage paru en février dernier aux éditions Sileps. Difficile de parler cuisine sans revenir au parcours militant de Josu et de son implication dans l'organisation que certains qualifient de terroriste, d'autres de branche armée du mouvement de libération nationale. L'ETA est créé en 1959 pour lutter contre le régime et l'État franquiste, pour l'indépendance, les libertés démocratiques et le socialisme au Pays Basque. Ce n'est pas à nous de juger et de choisir un qualificatif, bien sûr. Une chose est sûre. Le parcours de ce militant internationaliste, défenseur de l'indépendance, de la culture et de la gastronomie basque, ne peut laisser indifférent. Nous écoutons, chers auditeurs, chères auditrices de la Clé des Ondes, un des acteurs majeurs de ce conflit, qui nous parle tout à la fois de son engagement, de son implication dans le mouvement basque, mais aussi de cuisine, car, comme la musique et la langue, elles ont été et sont de tout temps un des traits de résistance du peuple basque. Hasard ou nécessité? L'entretien a lieu le jour où les Basques célèbrent l'Aberri Eguna, qui signifie le jour de la patrie en basque. Cette journée est une célébration du nationalisme basque, fêtée traditionnellement chaque dimanche de Pâques dans toute la communauté autonome basque et la Navarre ainsi qu'en Iparralde. L'occasion pour Josu de revenir sur l'origine du nationalisme, mouvement dont sont issues plusieurs branches et bien sûr l'ETA. Bien obligé de parler de son parcours, 17 années de clandestinité, 12 ans de prison, un des principaux négociateurs du processus de paix pour mettre fin à la guerre au Pays Basque, négociations menées entre l'ETA, l'Espagne et la France sous contrôle international à la fin du XXe siècle et qui, de par la volonté des États, n'a pas pu aboutir. Ce fut donc lui, Josu Urrutikoetxea, dit Josu Ternera, élu député au Parlement basque entre-temps, qui fut la voix de l'ETA et qui annonça la décision politique unilatérale de la fin du recours à la lutte armée en 2018. Il est d'ailleurs toujours en butte à des poursuites judiciaires, emprisonnement et menaces d'expulsion pour lui comme pour des dizaines de militants de l'organisation, emprisonnés sans volonté d'amnistie en vue, en Espagne et en France. C'est le 2 avril dernier, étaient jugés Jean-Noël Tchéveri et Béatrice Moll pour avoir transporté et possédé en décembre 2016 des armes de l'organisation indépendantiste qu'ils avaient l'intention de détruire. Leur action avait permis de relancer le processus de paix. Une peine de 2 ans et de 1 an ont été réclamées par le juge, qui tout à la fois reconnaissait qu'ils étaient dans ce processus, mais en même temps qu'ils n'avaient pas manipulé ces armes. Affaire à suivre. Revenons au livre « La cuisine sous clé ». Alors, au menu. L'objet du livre, vous commencez à le comprendre, est un bon résumé de la vie de Rossou. « La cuisine sous clé » est paru en février dernier aux éditions Sileps, je le disais tout à l'heure. Alors les amis, ceux qui aiment la gastronomie basque, vous y trouverez des recettes, des produits de la mer, de la soupe de poisson au pâté, flan, etc. Des recettes de légumes, bien sûr le gazpacho, ainsi qu'un curieux soufflé de courgettes ou un croustillon au riz et champignons. Et puis les tapas, faut pas oublier, qui introduisent les recettes de tarte, l'accommodation de ces fameux poissons, de volailles, de viande, des légumes, sans oublier les sauces et pour lier tout ça, les recettes de la fabrication du pain. Enfin, on passe au dessert inspiré du monde entier, la fabrication des confitures pour les dimanches matins d'hiver et en été, celle des glaces. En tout, 122 recettes basques et inspirées du monde entier pour rappeler la vocation internationaliste du combat mené par Rossou avec le TA, sa solidarité avec les luttes des peuples opprimés, colonisés ou occupés. Un ouvrage qui se veut une manifeste à la vie, à la résistance, titre d'ailleurs à la préface « L'esprit de résistance » écrite par Jerry Adams. Alors qui était Jerry Adams? Ça a été un responsable de l'IRA et il a été élu lui aussi député du Sinn Féin. Il a été l'artisan processus de la paix en Irlande du Nord. Il a publié un livre comme Rossou, Peace Progress, The Negotiator's Cookbook. Ça veut dire la cuisine des négociateurs, un jeu de mots entre peace, P-E-A-S, qui veut dire poids, et peace, la paix. Il n'est pas si paradoxal en effet que ces deux résistants basques et irlandais qui, dans leur combat pour beaucoup, aient eu recours à leur grève de la faim, dédient tout à la fois aux prisonniers leurs conditions de vie et comment, autour d'ateliers, la gastronomie a et permet de conserver les liens d'humanité, de la fraternité, moments d'échange, de transmission de savoir populaire du monde. Le livre « La cuisine sous clé » a été édité une première fois en 1996 à la demande d'Eva Forrest. On verra qui est Eva Forrest un peu plus bas. Elle-même fut victime des geôles de Franco dans les années 70. En fin d'une vie criminelle, alors que la jeunesse et la gauche espagnole relevaient la tête, le moribond haineux initiateur de massacres de dizaines de milliers d'Espagnols, des centaines de milliers d'exilés, pendant et après la guerre civile, est pour les Basques, lui, le responsable du bombardement de Guernica. Franco, au crépuscule de sa vie, garrottait de jeunes résistants. Nous pensons ici aux camarades pugantiques, ce qui déclenchait des manifestations gigantesques de solidarité dans le monde contre cette dictature. Oui, nous avons crié dans les rues en 1974 après l'attentat d'État contre le dauphin du dictateur et hop, Franco plus haut que Carrero. Mais aussi après la rafle contre les indépendantistes et l'arrestation d'Eva Forrest, nous étions par milliers à manifester avec ce slogan « Garmendia, Otaegi, Eva Forrest, il faut les arracher des griffes de Franco ». Une époque, une femme, Eva Forrest. Elle a fondé la maison d'édition Iru dans les années 90 et c'est là où elle proposera à Rossou d'éditer le livre La cuisine sous clé.
La novedad
Le salon à Tchitch, c'est à Saint-Pé-sur-Nivelle et ça se déroule là pendant le week-end de Pâques. Et c'est l'occasion, en fin de compte, de faire des rencontres puisque c'est à la fois un salon autour du vin et puis autour du livre engagé, hein, comme il l'indiquait sur l'affiche. Et en fait, on parle d'engagement. J'ai eu la chance de rencontrer Chaussu, qui est un lui-même très engagé.
Bon, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui a été édité par la maison d'édition Sileps, mi-février, qui est un bouquin qui est la traduction d'un livre qui est sorti en 1996 à la maison d'édition Hiru, qui veut dire 3, maison d'édition basque qui n'existait plus. C'est, à fin de compte, c'est un recueil de recettes et un entretien avec l'éditrice qui s'appelait. J'espère que les gens qui écoutent l'émission, beaucoup parmi eux doivent connaître, c'est Eva Forest, qui avait créé avec sa fille Evita cette maison d'édition. Elle est décédée il y a quelques années. Son compagnon Alfonso Sastre, qui est à mon avis un des meilleurs écrivains de théâtre du XXe siècle dans l'État espagnol, qui évidemment il a été mis de côté parce que depuis tout jeune il était militant antifasciste, donc il a été écarté. Les deux sont morts et la maison d'édition a disparu. Donc, en 96, j'ai écrit dans le milieu carcéral un recueil de recettes. Et c'est plus que ça. C'est déjà, ça évolue dans un milieu assez mal connu des gens. Malheureusement, les gens ne veulent pas, s'intéressent très peu à ce qui se passe derrière le mur. Ce n'est qu'un réflexe de la société, mais bon. Et donc, j'ai écrit à cette époque-là, dans cette mission d'édition, et le bouquin, il a été publié à 2 reprises et il n'y en a plus. Bon, ils doivent être à droite à gauche dans des maisons. Et ensuite, dans mon passage récent dans la prison de Paris, à Santé, j'étais arrêté en 2019, je suis resté un an et quelques. Et là, ma famille et mes copains, ils m'ont dit « Ah bah, pourquoi tu ne profites pas et tu ne le traduis pas en français ?» Et ce que j'ai fait. Et depuis, il y a des copains qui m'ont aidé à corriger. Ma culture, ce n'est pas la culture française. J'ai appris le français sur le tas, comme ça. Donc, on a ajouté l'introduction du bouquin qui est faite par Jerry Adams. Je crois que beaucoup de monde connaît qui c'est Jerry Adams, parce que lui-même, Jerry Adams, avec d'autres camarades irlandais, à l'époque de négociations avec les Britanniques, dans le processus de négociation avec les Britanniques, Eux aussi, ils avaient écrit, ils ont publié un bouquin de cuisine qui était basé sur les recettes qu'ils avaient fait, des plats qu'ils avaient préparés pendant les négociations avec les Britanniques. Ouais. Donc, et lui, il s'est prêté volontaire à me faire l'introduction. Et ensuite, j'ai ajouté à la traduction originale, résumé si on veut, parce que en tenant compte que qu'il est écrit en français, et ça va vers la direction d'un public français, j'ai cru nécessaire de contextualiser la situation au Pays Basque et de faire un résumé historique et d'actualité. Donc après l'introduction, il y a ça. Et il s'ensuit d'une façon très originale. Ça a été l'idée des camarades de Sileps. Ça suit l'interview que Eva Forester m'avait fait en 1996, quand j'étais en la prison à Madrid, à Alcalá de Henares. Et donc, cette interview, il a été traduit. On l'a traduit parce que je considérais qu'il est atemporal, on dit, en dehors du temps. Mm. Il est valable de nos jours. Et la façon de le lire dans le livre, c'est pas l'interview, il n'est pas suivi. C'est-à-dire que l'interview commence, et après, il est éparpillé, on dirait, entre les recettes.
C'est une façon de faire la cuisine, quoi, en fait. Hein,
oui, oui.
Une cuisine politique, on prend ça avec rigolade, mais bon, très sérieuse, hein, puisque tu le dis sans le dire, mais bon, tu as eu un engagement très, 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 très fort, on en parlait tout à l'heure, dès l'âge de 17 ans, donc ça fait 2-3 ans seulement, et tu as qui a marqué, en fait, l'histoire contemporaine récente, que j'ai vécu moi aussi. Tu parlais d'Eva Forest et d'une manifestation au moment de leur arrestation. Grande manifestation dans le monde entier et en France en plus particulier. Donc tu as un parcours militant très fort et en même temps culturel, hein, puisque ce qui nous a amené à nous rencontrer, c'est toujours le carnaval. Moi j'ai découvert qu'il y avait la fête nationale basque, alors qui avait lieu.
Le dimanche de Pâques.
Après, Josue m'a bien expliqué que ça n'avait rien à voir avec la religion.
Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut plonger un siècle en arrière. C'est le mouvement nationaliste en Europe et donc au Pays Basque aussi, développement de ces mouvements. Et puis, pour marquer leur revendication en tant que peuple opprimé, une nation sans État, un siècle après on se trouve aussi en étant une nation sans État. Et à ce moment-là, ils décident de fixer un jour pour fêter le jour du Pays Basque. Et donc, ils sont choisis pour différentes raisons le jour de Pâques. Je ne nie pas que même si de nos jours il n'a rien à voir avec la religion, à cette époque-là, il faut tenir compte que le nationalisme, il était très imprégné des aspects religieux. Alors, il faut tenir compte qu'un parti qui a encore de nos jours encore beaucoup de force, un parti comme le Parti nationaliste basque, qui est un parti un des fondateurs de la démocratie chrétienne européenne, est un parti que, c'est-à-dire quand vous dites PNV, Parti nationaliste basque. Mais, ça c'est écrit par exemple en français, Parti nationaliste basque. Si tu voulais le traduire dans ma langue, en basque, ça serait Euskal Alderdi nationaliste, non, disons. Mais ce n'est pas ça. Pour vous dire la force qu'il avait à cette époque l'Église dans le monde en général, dans la société basque en général, mais surtout dans ce monde nationaliste, même s'il y avait des organisations et des partis politiques qui étaient contre et qui n'étaient pas de la démocratie chrétienne et qui n'étaient pas de droite. Ces partis-là, c'est un parti de droite, un parti conservateur. Et je reviens au sigle des partis en basque, c'est J-E-L, qui veut dire, je traduis, Dieu et les vieilles lois.
D'accord.
Pour dire là comment ces partis-là, en l'occurrence, il est marqué par l'Église. Et de nos jours aussi. C'est un parti, un siècle plus tard, un parti de droite conservateur sans plus. Et mais donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas nier que ouais. le fait de choisir cette date-là pour faire une fête de contenu national était à l'époque assez marqué par ce monde imprégné par ce monde religieux. Religieux et aussi, c'est une partie classiste. Hein. C'est, même s'il y a des gens de différentes classes, le parti, ça a été toujours un parti classiste, quoi, qui défend les intérêts du capitalisme.
Oui,
bah,
oui,
c'est clair.
Ouais. Alors, donc, ça, parce que là, tu nous fais presque un historique. Hein, donc, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître le drapeau basque.
Oui, mais c'est un peu avant. Voilà, c'est un peu avant, oui. Ouais. Là, il y a différents gens. Qui, hommes de lettres, des politiciens, qui avaient développé, mais bon, avant, hein, au 19e siècle, déjà, des principes que plus tard deviendront des principes du nationalisme. Et il y a des gens de gauche, comme Agustí Chao, qui est un citoyen du Pays Basque Nord, qui était à sa façon nationaliste, mais qui était un militant de gauche, quoi. Il n'avait rien à voir à. Et donc, on pourrait parler des journées entières, les guerres carlistes qu'il y a eu pendant le 19e siècle. Ouais. Ce n'était pas une guerre de succession, en fin de compte, là-bas, c'était ça. Mais c'était surtout au Pays Basque une guerre du peuple qui défendait ses vieux droits, c'est-à-dire les forts, comme on dit, les vieilles lois, sur lesquelles. Le peuple basque, il fonctionnait. Hein. Et à ce moment-là, sous prétexte de ces faits de la Révolution française, il y a eu de. C'est-à-dire qu'il y a. Comme quoi, la Révolution française, il a supposé des avancées dans certaines choses, mais aussi une centralisation équivalente à celle qu'il pouvait avoir dans un royaume.
Ah oui.
C'est-à-dire que pour eux, c'était l'universalisme. Donc, si tu prônes l'universalisme, pas besoin de nationalisme.
Hein. C'est ça.
Mais ça, c'est ne pas vouloir rentrer plongé dans le monde d'un peuple comme le nôtre, que pour ce peuple-là, les guerres carlistes, à la base, une guerre de succession, la couronne, des guerres entre la couronne. Prétendant la couronne espagnole, il y avait des revendications populaires. Même si l'histoire elle a été écrite par ceux qui sont gagnés, donc ils sont écrits à leur façon.
L'histoire, c'est la version des victorieux, voilà, hein, et donc de la classe sociale qui domine, et ça fait partie justement
donc,
de
comme,
nos.
Comme il dit un Bertolari, un ami à moi, Bertolari, je ne sais pas si tu sais, c'est Bertolari, c'est improvisateur. Un improvisateur.
D'accord.
Chez nous, c'est très, très s'étendu, ça fait partie de notre culture. Il y a des luttes d'improvisateurs. Hein. Il y a un improvisateur, nous on a perdu presque toute la guerre, sauf au 9e siècle, à la bataille de Roncevo, contre l'empereur. Même si c'est comme ça, nous on a perdu toutes nos guerres, il dit l'improvisateur. Et c'est pour ça que c'est un peuple qui chante. Parce que au moins nous on écrit les chansons, la façon de comme le récit il est écrit par celui qui gagne, et nous on s'exprime par l'intermédiaire des chansons qui expriment nos peines, nos revendications, nos rêves, et tout ça. Donc oui. Mais c'est que pour venir au nationalisme, c'est que l'organisation ETA qui a été créée en l'année 1959. Et quelques années plus tard, a théorisé sur le nationalisme et c'est devenu un nationalisme révolutionnaire. Ça n'a rien à voir
avec le nationalisme. Avec sa naissance, avec le.
Rien à voir. C'est-à-dire qu'en vérité, si on peut dire, le nationalisme, à quoi on résume le nationalisme ? Le droit à décider de ce qu'on veut être, point barre. Et révolutionnaire, parce que pour nous, c'est inséparable. Et en plus, internationaliste. Ouais. Donc c'est-à-dire on pourrait croire à une contradiction, nationalisme, internationalisme, mais non. Mais non.
C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, à ce salon, le drapeau palestinien flotte aussi à l'entrée.
Exemple. Et il faut voir que dans un mouvement populaire pro langue basque qui a eu lieu la semaine d'avant, qui s'appelle Korrika.
Ah, Korrika.
Voilà, c'était.
Et en plus, il y a eu un fait tout à fait extraordinaire à la Corica, c'est qu'ils ont organisé, si je puis dire, le passage de jeunes migrants. Hein, à la frontière.
En profitant qu'il y avait des milliers de gens, répression journalière, tous les jours, constante contre les migrants. Et donc, ils ont profité de la Corica pour pouvoir passer entre ces milliers de gens qui revendiquaient, à fin de compte, le droit à parler et à s'exprimer et à vivre en langue basque, en euskera. Et donc, un exemple d'internationalisme, c'est que le drapeau, en tenant compte que la Corica, c'est le passage de témoignages un kilomètre jour et nuit, sans s'arrêter pendant 11 jours et 10 nuits. Donc, ça fait 2800 kilomètres à travers le Pays Basque. Les drapeaux qu'on a vus, avec le drapeau basque évidemment, qu'on a vu pendant tous les kilomètres de ces 2800 kilomètres, ouais, ça a été le drapeau palestinien. Ouais. Donc, nous, c'est-à-dire que l'internationalisme, on peut dire que nous, on l'a dans le sang, parce que quand on est un peuple opprimé, on comprend mieux que les autres.
Alors ça m'amène, tu parles de l'ETA, et il faut le dire ou il ne faut pas le dire, je ne sais pas, mais tu as été toi-même un militant engagé dans l'ETA.
Ah oui, oui.
C'est pour ça qu'au début de notre entretien, tu parlais de prison. Tu
avais...
Voilà, tu as fait combien de temps de prison?
Moi, 12 ans et quelques mois.
Voilà. Ah ouais. Et tu nous disais hier que tu as participé à des retrouvailles d'amis qui avaient suivi un parcours. Ouais. Alors on parlait de destin, pas destin, ce n'est pas le terme, mais qui ont suivi un parcours tout aussi difficile.
Oui. Mais si ce n'est pas plus, il faut tenir compte que... Encore, il y a 140 prisonniers dans le géol espagnol. Dans l'État français, il y en a très peu. Il doit y avoir 7.
Il y a une campagne, de toute façon, là, qui est menée, là, parce qu'à chaque fois que je vais au pays.
La campagne, elle est constante. Quoi.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il y a un processus de lutte qui. Bon, l'ETA a disparu il y a quelques années. Le désarmement, il y a eu lieu en 2017. C'était l'État espagnol et les Français qui suivaient l'espagnol. Il a voulu rien savoir de désarmement. Et il a pas voulu rentrer dans une dynamique de négociation. Donc autant le désarmement que la dissolution de l'ETA, ça a été de façon, je crois qu'à niveau mondial, c'est le seul cas qui existe de unilatéralité de ce côté-là.
C'était une décision politique.
Oui, voilà, c'est pour différentes raisons politiques. Mmh. Mais il faut tenir compte que nous, on a participé dans différentes périodes. Mmh. Depuis les années 80 du siècle dernier jusqu'à le 2011, à des négociations avec des délégations du gouvernement espagnol qui, malheureusement, ça n'a pas avancé. Mais tenir compte que notre combat, c'est surtout pour le droit à décider, à tous les niveaux. En partant de là, nous, on ne revendique pas l'indépendance, non, on revendique le droit à décider. Si à moi, on me demande, je dis, oui, je suis un militant indépendantiste. Mais à niveau de revendication face à notre peuple, c'est ça, non? Donc, nous, on n'a jamais cru que notre combat pour le droit à décider passerait par une victoire militaire. Ça, c'est être dingue, quelqu'un qui court même avant. Mais de forcer d'une certaine façon l'État espagnol à s'asseoir à une table pour pouvoir négocier politiquement de la sortie du conflit. C'est-à-dire, c'est pas par notre combat qu'on croyait vaincre militairement l'État espagnol. Le but, c'était de mener l'État espagnol à s'asseoir à une table de négociation par l'intermédiaire de laquelle on puisse sortir du conflit. On va sur le livre. Pour moi, ce livre-là, je peux le résumer...
Tu parles du livre sur la cuisine et qui parle d'Eva Forest. Hein.
Oui. Et donc, Eva Forest, c'est Eva Forest qui m'a fait l'interview qui apparaît dans le bouquin. Mais je le résumerai en trois mots. C'est que pour moi, c'est un outil de résistance dans ce milieu carcéral. Et milieu carcéral sombre, noir, obscur, milieu répressif à fond la caisse. Pour moi, c'est un outil de résistance. Montrer notre dignité au système qui t'opprime. De deux, pour moi, ce bouquin, c'est une histoire de solidarité et une histoire de partage. Parce que, brièvement, je t'ai dit, la recette que je fais ça, Autant les aliments pour faire que les recettes, les plats une fois faits, c'était partagé entre un groupe de gens qu'on avait constitué autour de la cuisine, autour du thé que prisonnier à Mazig, Kabil nous préparait, et le café qu'on faisait. Donc c'est une histoire de partage. Et une histoire de solidarité parce qu'il y a eu cette entraide entre nous et en même temps de résistance. On peut dire ça. Et après, et donc, c'est un film d'univers, c'est un univers carcéral que j'ai eu la chance d'éditer par la maison d'édition Ilou, qui était une maison d'édition qui avait été créée par Eva Forest. Et qui, c'est cette femme-là qui, à part d'être une amie, c'était une militante internationaliste. Elle naît en Catalogne. Eva Forest Tarrat. Elle fait des études, elle finit des études de médecin psychiatre. D'accord. Et donc après elle va à Madrid, elle était militante du Parti communiste à l'époque, dans sa lutte antifasciste à Madrid. Et elle connaît, continue à militer, elle était militante féministe déjà à l'époque. Elle connaît son compagnon qui s'appelait Alfonso Sastre. Alfonso Sastre, c'est un grand écrivain du XXe siècle, à mon avis, un des meilleurs écrivains de théâtre, qui a été laissé de côté par ses idées politiques. Et donc, Eva et son compagnon, Alfonso et ses enfants, qui vivaient à Madrid, Eva elle a été contactée par les militants de l'ETA, et elle laisse le Parti communiste, et son compagnon aussi. Elle s'engage dans la lutte de soutien à l'ETA, à la lutte de libération nationale et sociale du Pays Basque. Elle est arrêtée en 1974, elle est torturée à mort, et donc elle est libérée en la soi-disant amnistie dans l'État espagnol. Et ensuite, elle vient vivre au Pays Basque, à Fonterrabí. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont créer, parce qu'elle va créer cette maison d'édition avec sa fille, Evita, et qui publiait des livres à engager, un peu comme ici aujourd'hui, on voit dans la foire. Et donc, moi, en 1996, j'étais en prison, à la prison de Muret, et le dernier jour à la prison de Saint-Michel à Toulouse. Et donc, je sors moi, j'aime la cuisine depuis tout petit. Et toutes les recettes que je les avais faites, comme j'ai fait ces études à la fac de Mireille, des études d'histoire, j'avais un petit ordinateur qui me permettait pouvoir garder mes recettes et tout ça. Quand je savais que j'allais être expulsé dans l'État espagnol, chose qui a été faite en mai 96. Et à ce moment-là, avant que je sois expulsé, je sors tous les matos que j'avais. Je les sors à mon fils, qui était en contact, parce que je m'écrivais avec Eva, avec la Forest. Elle lui raconte qu'il y avait un recueil de recettes avec des dessins d'un camarade qui était avec moi en prison. C'est pas le but de faire un bouquin. Moi, j'avais le but d'écrire, mettre sur les papiers ce que je faisais. Et racontant dans la recette comment on avait obtenu les produits pour faire cette recette. Et c'est là qu'on parle de milieu carcéral, presque dans chaque recette.
D'accord.
Et donc, elle prend ces documents-là et s'est dit, oh, mais dis donc, mais ça, il faudrait les publier, coûte que coûte. C'était écrit en basque. Elle, qui ne parlait pas le basque, elle avait tenu permis de visite, elle vient me rendre une visite un jour à la prison de là où j'étais, à côté de Madrid. Et là, elle m'a fait une interview. Et cette interview-là, qui a été traduite en basque, parce qu'elle l'a fait en castellan, et donc qui a fait partie de l'introduction du bouquin original en 1996, qui a été publié pour la foire. Il y a une foire très très importante au Pays Basque Sud, à Durango, à côté de Bilbao. Chaque année, ça a lieu au début décembre, pendant plusieurs jours. C'est une foire qui est devenue énorme maintenant, des livres de musique, de la musique basque.
D'accord.
Et donc, elle a sorti le bouquin pour cette foire-là. D'accord. Tous les bouquins, ils ont disparu tout de suite. Elle a republié encore, réédité, je veux dire, une fois, mais ça a disparu. Donc, il n'y a plus de bouquins comme ça. Et donc, j'ai tenu à quand j'ai fait la traduction du bouquin, j'ai tenu à garder dans son intégralité
son intervention.
L'intervention, parce que pour moi, c'est hors temps, quoi.
D'accord. Bah écoute, je te remercie pour cette interview. Et puis, donc, je vous encourage tous à regarder et à lire ce livre. Hein, c'est important, on en reparlera de toute façon. Voilà.
La cuisine sous clé.
Voilà, la cuisine sous clé aux éditions
Sileps.
Tout le monde connaît ici. Ils ont édité notamment le guide du Bordeaux colonial. Voilà, bah merci beaucoup. Hein, et puis très vite. Hein. Ah ouais, j'espère.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Alors Eva Forest, son pseudonyme c'est Genova, c'est un pseudonyme hein, parce que son vrai nom c'est Genoveva Forest Itara. Elle est née en 1928 à Barcelone, elle s'engage très tôt dans la lutte contre le franquisme tout en continuant ses études de médecin psychiatre à l'université de Madrid. Elle y rencontre son futur époux, Alfonso Sastre, un écrivain, dramaturge, espagnol, antifranquiste lui aussi. Pendant le procès de Burgos contre les militants de l'État, elle crée le comité de solidarité avec l'Euskadi à Madrid, ce qui la lie pour toujours au Pays Basque. Elle écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Operation Orgro, qui est du nom du lieu de l'attentat, en 1974, sous un pseudonyme pourtant, Julien Aguirre, dans lequel elle raconte l'attentat contre Luis Carrero Blanco, et ce qui justifiera son arrestation et l'accusation d'être membre de l'ETA. Elle fut arrêtée, emprisonnée et torturée en 1974 dans la prison de Madrid, car celle des Yeserias. À la suite de son jugement par un conseil de guerre et de nombreuses manifestations plaidant en sa faveur, Eva Forest fut ensuite libérée le 1er juin 1977.
À sa libération, accompagnée de sa famille, elle quitte le pays pour déménager à Fontarabie, en Pays Basque, à la frontière française, et elle y restera d'ailleurs jusqu'à sa mort. Entre-temps, elle a fondé la maison d'édition Hiru dans les années 90, et c'est là où elle proposera à Josu d'éditer le livre « La cuisine sous clé ». Pour mémoire, le 5 octobre 1975, marche des femmes à Hendaye contre le franquisme. La solidarité internationale était très très forte à l'époque contre la fin de ce régime. Donc c'est à partir d'une photo portée par les femmes qui disait « Les sorcières sont en vie, l'Inquisition se meurt » en parlant de ce régime, que Isabelle Cambourakis, dans un livre qui a disparu, un journal qui a disparu, c'est une revue Silence, une revue féministe, le 5 octobre 1975, parlait de cette marche. Alors elle cite, je cite, « Nous sommes à Hendaye, à la frontière espagnole, en 1975, dans un contexte particulier d'exécution d'opposants au franquisme. Après le garrotage de Pugantich en 1974, quatre militants de l'État sont à leur tour fusillés le 27 septembre 1975. Depuis quelques mois, des pétitions circulent à Paris et en France suite à l'arrestation de plusieurs femmes militantes antifranquistes proches de l'ETA. Deux de celles-ci, Eva Forest et Lilia Falcon, écrivent des textes en prison qui sont publiés aux éditions des femmes en avril 1975 et seront de véritables succès éditoriaux. Suite aux exécutions du 27 septembre, des groupes féministes décident d'organiser une marche des femmes à la frontière espagnole. On trouve parmi les appelantes la tendance du MLF psychanalyse et politique, le même groupe qui occupe les éditions des femmes et un nouveau journal, le quotidien des femmes, mais aussi le MLAC, mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, le mouvement pour le planning familial, les pétroleuses, tendance lutte de classe, et le groupe de liaison et d'information femmes-enfants qui s'appelle le GLIF. En à peine 3 jours, elles organisent le départ pour Hendaye et partent la nuit pour se retrouver à 10h du matin devant la frontière. Un millier de femmes pour s'opposer au franquisme, à l'emprisonnement et à l'exécution des opposantes. Pour que la moitié du ciel ne soit plus renvoyée à l'enfer des sorcières, disent-elles. Cette marche improvisée sera à la fois une marche de deuil, de chant et de colère, avec quelques témoignages que je cite. Je cite. À Hendaye, beauté d'une manifestation où le deuil et la colère passent à travers le corps et la voix des femmes. Prends ta part d'histoire, tu avanceras 2 fois plus vite. 1000 sont allés à Hendaye, depuis le fond le plus écrasé de l'histoire, le plus près possible de la vie et des morts, à la frontière. 1000 pour toutes, faire appel des morts, assassinés, toujours vivants, et l'appel des vivants contre la mort. Référence aux fascistes qui, après le coup d'état de Franco contre la République, criaient « Viva la muerte !» Rappelez-vous. Aux femmes venues un peu partout pour cette marche, se sont jointes des femmes basques qui ont accompagné l'action et le sit-in devant les CRS avec leurs chants. Je cite « L'espoir étant présent dans les chants merveilleux d'une chanteuse basque qui nous a tous liés dans le silence. » Eva Forest, comme on le disait tout à l'heure, sera libérée en 77. Elle se battra ensuite contre la torture. À sa mort, en 2007, ses enfants disperseront ses cendres à l'endroit du port d'Hendaye, qui porte aujourd'hui son nom, qu'est Eva Forest. Si vous y passez, n'oubliez pas, si l'Inquisition n'en a jamais vraiment fini de mourir, les sorcières, elles, sont toujours en vie. Article d'Isabelle Cambourakis, que nous saluons ici.
Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
L'émission se termine. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Nous avons pu écouter 3 musiques. La première, c'était Egoac, qui est une chanson traditionnelle basque. La seconde, c'est The Partisan, de Leonard Cohen, en hommage un peu au militantisme de Yosu. Nous a fait part de son livre La cuisine sous clé. Je vous donnerai une recette d'ailleurs avant de nous quitter. Un livre de recettes de cuisine d'un prisonnier politique basque et autres considérations, comme il le dit. Et puis aussi, pour un hommage, on peut dire, à une grande dame qui était une militante aussi révolutionnaire et antifranquiste, Eva Forest, militante féministe très reconnue, et pour ça que j'ai mis cet extrait en fait de chanson de Debout les femmes, parce que elle a fait partie de cette irruption, comme dit la chanson des femmes dans l'histoire, qui étaient les grandes oubliées, les grandes absentes. Voilà, donc c'est un hommage, et quand vous passez sur Hendaye, et bien allez faire un tour sur le quai qui fait face à l'Espagne, qui porte son nom. Je trouve que c'est un très bel hommage, et puis surtout un trait de liaison entre ces deux pays, avec le Pays Basque, qui sert de trait d'union. Alors une recette qui est assez rigolote, parce que ça s'appelle le poulet à la péruvienne. Alors comme on l'expliquait dans l'interview, c'est chacun qui apportait ses recettes. Alors le prisonnier péruvien, qu'on appelait l'Indien, rêvait de cette recette qui lui rappelait le plat que sa mère lui préparait. Alors je cite, prêt à prendre vos crayons pour noter. Alors les ingrédients, pour 4 personnes, il faut pour le bouillon un poireau, un oignon, une gousse d'ail, une carotte, 1 litre d'eau, sel et poivre. Pour le plat, 4 ailes et 4 cuisses de poulet, 1 oignon et demi, 2 gousses d'ail, 1 cuillerée à café de piment piquant, 1 demi cuillerée à café de cumin, 4 tranches de pain, un peu de lait, 50 g d'emmental, 12 noix, de l'huile d'olive, du sel et poivre noir. Donc il faut désosser les ailes et les cuisses, préparer un bouillon avec les os et les légumes, dans une poêle avec un peu d'huile, faire revenir à feu doux l'oignon coupé en morceaux. Ajouter l'ail coupé très fin ainsi que la chair des ailes et des cuisses qu'on aura coupées elles aussi très fines. Ajoutez le piment piquant, mélangez et continuez la cuisson pendant 2-3 minutes. Mouillez dans l'eau le pain émietté et le laissez de côté. Mettre dans une casserole, la chair des ailes et des cuisses salée et poivrée. Ajoutez les maintales râpées, les noix émiettées et le pain mouillé. Ajoutez le bouillon, maintenir 5 minutes à feu doux et c'est prêt. Bon, le livre, vous pouvez le trouver aux éditions Sileps. Il ne vaut que 15 euros. Et puis, c'est un livre plein de surprises, bien sûr, les recettes, et l'histoire. Et c'est aussi une réflexion qu'il a par rapport à la malbouffe. C'est aussi pour ça que l'idée lui est venue de faire ce livre. Malbouffe qui lui a donné cette envie d'essayer de conserver ses traditions orales de la bonne chère à un moment où la société de consommation de masse méprise globalement l'oralité. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Eva Forest dans conclusion du livre, hein, où elle dit... Je conclurai par un simple calcul, d'ici 15 à 20 ans, donc on est en 96, ceux qui, comme Yosu, auront connu la vie d'avant, glisseront presque tous dans la tombe, et ceux qui seront alors jeunes ou adultes, n'auront malheureusement jamais rien connu qui puisse leur servir de point de comparaison pour juger les arts imposés dans le domaine alimentaire. Et bien voilà, c'est aussi un... On parlait de trait d'union, un trait d'union entre générations que a voulu transmettre Yosu à travers ce livre, La cuisine sous clé, recette de cuisine d'un prisonnier politique basque et autres considérations. Merci beaucoup. Voilà, histoire de voir, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura une conférence enregistrée autour d'un livre qui s'appelle Le sionisme, l'antisionisme, c'est une histoire juive. Et c'est commenté par André Rosevec, que vous connaissez sûrement. Et puis, on aura aussi encore en préparation d'autres conférences et d'autres interviews. Une conférence donc de Nancy Houston autour de son livre qui s'appelle Francia et qui fait un livre de chapitres notamment sur l'exil que je vous lirai sûrement et que nous conserverons pieusement parce qu'elle définit beaucoup cette notion d'exil. Nous sommes tous des exilés, volontaires ou pas. Sur ce, à la semaine prochaine. Vous êtes bien sur la clé des ondes dans l'émission Histoire de voir, histoire au pluriel. Et à très vite.